Oui, ce qu'on avait pensé, Charles, si tu étais d'accord,
Oui.
c'était avant d'enregistrer les chants eux-mêmes, que tu nous dises dans quel contexte tu les as appris. En fait, que tu nous parles de ton enfance,
Oui,
c'est-à-dire
tout à fait
de ta
d'accord.
famille, de ton village et de ce contexte
Tout à fait d'accord
camerounais que
parce
tu
que
as.
c'est, ça me semble essentiel.
Oui.
C'est la chose importante de porter témoignage de quelque chose. Oui, bien écoutez-moi, tous ces chants, je les ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, quand j'étais gosse, déjà, ça commençait avec les comptines, ça continuait avec les chansons que nous chantaient les berceuses. C'était encore, c'était valable tout ça. Autrement dit, ça vivait, ça n'était pas dans les recueils. Bon, à l'école, au fond, mon souvenir quand même où je commençais à chanter, c'est à l'école. Quand je me suis retrouvé à une école de Campolivan, dont mon père était l'instituteur.
C'était en quelle année, est-ce que tu peux
Ah, mais
préciser
c'était
ça?
dans les années 20. Moi, je suis né en 19, à partir de 22, 23, 24. Et mes souvenirs, là, à partir de 3-4 ans, on garde quand même des souvenirs. Ils sont pas très détaillés, mais enfin, on garde pas mal de souvenirs. Mais alors, ensuite, il y a deux choses. C'est que dans la vie de tous les jours, les gens chantaient. Et alors qu'ils ne chantent plus aujourd'hui. Ils ont des appareils qui chantent pour eux. Mais ensuite, on nous avons appris des chants d'emblée. C'était tout naturel. Moi, quand je montais dans mon village, l'école de Compolivat, elle est en bas du village, presque à la sortie du village. Le village est bâti autour d'une place, pas ronde, mais enfin oblongue, un peu ovale. Et à la sortie du village, il y avait l'école. Et j'avais mon grand-père. Alors, c'est assez particulier, mais pour moi, ça a été très précieux, ça. Parce que tu sais, l'important, c'est que prenait la place des grands-parents dans la vie quotidienne. Or, par un hasard heureux, enfin, c'était pas un hasard, il l'avait voulu, il l'avait cherché, il l'avait obtenu, mon père s'est retrouvé, à partir de 1923, instituteur du village où il était né, et à 20 ans, c'est-à-dire, écoute, 6 ans après la guerre, pas la guerre, la guerre étant finie, mais 6 ans après qu'il lui ait quitté son métier de bâtier. Bâtier, de bouvier. Bouvier. Mon père est né dans une ferme, ses parents étaient agriculteurs. Mais à 12 ans, comme tous les gosses, il est parti chez les voisins faire pastrer d'abord, c'est-à-dire garder les bêtes. Et puis, un an ou 2 ans après, il était costaud, il labourait, herbatier. Et puis là, il s'était amouraché d'une gamine, enfin, tous les deux. Et un jour, la gamine lui dit, à la rentrée, je m'en vais, mes parents veulent que je sois institutrice. Alors lui, tout à trac, il dit, ben, si tu pars pour être institutrice, moi je vais me faire instituteur. Et il va trouver son père en lui disant je vais être instituteur, alors tu vois la tête du pépé. Quand mon père lui dit ça, il dit, mais tu es sérieux? Et oui. Ah, écoute, il lui dit, le pépé, moi je veux pas, qu'après tu viens de me faire des preuves. Enfin bref, il est parti et il est devenu instituteur. Donc, réfléchis bien qu'à 14 ans, voilà le truc. On va se perdre si je vous lance là-dedans. Enfin, puisqu'on y est.
Si,
Bon,
vas-y, viens.
allons-y. Mon père, à 14 ans, encore était bâtier.
Ouais.
Il s'est destiné aux travaux de la terre. L'instituteur, quand il y a cet incident-là, le pépé va voir l'instituteur. Il lui dit, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Mon fils me dit ça, il veut ça. Est-ce qu'il est capable de le faire? Alors, il dit, évidemment, il a pris 2 ans de retard. Mais il est intelligent, il est capable de les rattraper. Bon. Alors, à 14 ans, donc il quitte ça, il entre en cours complémentaire où il rattrape les 2 années de retard. On le fait d'emblée. Il passe le concours d'entrée à l'école normale, il est reçu. Et il fait une année et demie d'école normale à peine, parce que c'est la guerre. Et tous, ils s'engagent pour aller à la guerre. Bon, il est blessé, il revient, et donc réfléchit, alors on le nomme d'ailleurs d'emblée, avec un an et demi d'école normale, on le nomme instituteur, et il revient dans son patelin, où 6 ans après, avant qu'il ait été baptisé, il va faire l'école aux enfants de Saint-Denis. Et alors dans ce village, moi quand je montais, alors il y avait donc tous les grands-parents des deux familles, la famille de mon père, qui était une ferme sur une hauteur, la Strela Ouzetos, et puis mon grand-père, qui était maréchal Ferrand, forgeron maréchal Ferrand, qui avait fait le tour de France, ce qui avait pas mal, ça faisait un homme extrêmement ouvert, et il était lui en haut du village. C'est-à-dire que quand je sortais moi, de l'école, quand j'avais le temps, j'avais 200 mètres à faire pour être chez mon grand-père. Mais quand je montais dans le village, aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ce que je vais vous dire. À côté de l'école, il y avait un menuisier, une boutique de menuisier où j'étais tout le temps fourré. Et j'admire les gens de cette époque-là. Un gosse d'habitude, fous-moi le camp, hein, tu m'embêtes. Bon, non, au contraire, tiens, voilà une scie, tiens, voilà mon sang de bois. Voilà. Alors, et puis, il chantait, en faisant son truc, mais il chantait. Bon. Un peu plus haut, il y avait la place, il y avait le boulanger, un sabotier, une petite épicerie marchande de draps, là il ne chantait pas. Mais le sabotier chantait. Il y avait ensuite le cordonnier, il chantait. Il y avait ensuite le charron, il chantait. Il y avait le forgeron, il chantait. Tous ces gens-là, pas tout à la fois, mais enfin, quand ils étaient en train de travailler, c'était rare qu'ils ne chantent pas à un moment donné. Et tu continuais, il y avait encore un sabotier, il y avait encore un forgeron. Alors, on vivait dans ça. Évidemment, il n'y avait ni radio, il n'y avait rien. C'était des trous perdus. Mais ces gens-là, ben, ils se distrayaient par eux-mêmes. Et moi, j'ai appris ça, tout jeune. Donc, moi, je sais que, bien sûr, comme dans toutes les maisons, je suppose aujourd'hui moins, parce qu'on a tellement de machines qu'il n'en est pas besoin. Mais moi, dans la maison, on apprenait à aider. On allait chercher l'eau, puis, par un tour, là. Va me chercher du persil, là-bas, au fond du jardin. Va me chercher 3 feuilles de salade. Enfin, des histoires comme ça. Va me chercher du bois. Va chercher le pain. Et puis, j'ai aidé ma mère à faire la vaisselle. J'ai suivi la vaisselle. Tu n'as pas pu ça, tu n'as pas connu ça.
Si, quand même.
Et ma mère chantait. Et ma mère chantait tout le temps faisant la vaisselle, elle chantait. Et alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, tous les chants, disons, du cru. Et puis alors, tous les gosses, on connaissait tous ces chants. Mais nous les chantions entre nous.
Ils chantaient quoi, précisément?
N'importe quoi, des trucs comme la Rosalie de mon baptême, ça part au jardin, tous les airs de, comment ça s'appelle, la chanson des Jeannetons, le chant des faucheurs, Louz Esclope, toutes les chansons qui sont du répertoire.
Je veux dire, c'était des chants du répertoire.
Du répertoire du vieux, le plus traditionnel que tu puisses imaginer. Et alors... Mais je vais plus loin, d'ailleurs, ça aussi, je pense que je vous le donnerai, parce que j'ai retrouvé dans mes archives, là, je suis en train de mettre un peu d'or dans mes archives, j'ai retrouvé un truc que j'avais fait il y a 60 ans maintenant. J'avais commencé à faire, à noter ce folklore de Compoliva, nos jeux, ce qu'on disait, ce qu'on disait, tout ça, ce qu'on faisait, certaines fêtes. Et alors, moi je crois que... Alors évidemment, on était mêlés à tout ça. On était mêlés à toute cette vie, et très tôt. Alors donc, avec nos copains, mais moi j'avais des petits copains, on était déjà... Il y avait une espèce de compétition, tu vois, quand on chantait. Mais tout naturellement. C'était à celui qui chanterait le plus fort et le plus haut. Et ça, ça m'a duré, ça. Écoute, j'étais marié, j'avais des gosses, j'allais voir une tante à Rieux-Pérouse, Ça, c'est la dernière fois où j'ai pu faire ça. Rieux Pérou, c'est un pâté-là à côté de Compolivat, j'allais voir une tante. Dès quand j'arrivais, les gens savaient déjà à ce moment-là, on me connaissait, enfin, on me connaissait bien entendu dans le village comme le Charlot, parce qu'ils avaient vu comme ça, mais notre émission avec Dominique était déjà en plein boom, on chantait, on savait que je chantais beaucoup. Alors, quand j'arrivais, je m'arrêtais chez ma tante. Il n'y avait pas 5 minutes que la voiture était arrêtée devant chez ma tante. Il y avait un voisin qui arrivait, c'était un charron. Et il avait, et comme beaucoup d'artisans, et sa femme tenait un petit bistrot. Alors il venait, il me disait, « Dis, je t'attends tout à l'heure là, on chantera !» Et j'y allais. Et alors on se mettait de côté de la table. Et Aïda, on chantait. Et alors on chantait, c'était un véritable... J'allais dire un compas de gueule, c'est un peu ça. Chez les Grecs, c'est un peu ça. Mais chaque fois qu'on reprenait un couplet, on montait un demi-ton. Jusqu'à celui qui ne pourrait pas monter plus haut. Et c'était lui qui payait l'addition, tu comprends? Alors cette espèce de vieille tradition, de vieilles habitudes, c'est formidable. C'est formidable. Moi, avec mon ami Georges Jacquard, tu te rends compte, et lui, il en garde un souvenir de ça aussi. Et ce sont des souvenirs inoubliables. Nous étions en Cagne, tous les deux. Bon, c'est pas le monde, mais enfin, c'était déjà un niveau intellectuel pas mal. Nous étions en train de préparer l'école normale supérieure. Bon. Et bon, en train de faire des licences de latin, de grec, etc. Et Dieu merci, moi, j'étais toujours resté attaché à tout ça, et au contraire, je le cultivais de plus en plus. Et alors, mon brave Georges Jacquard, qui est venu par la suite à Paris, directeur de l'école alsacienne, c'est-à-dire d'un des établissements les plus huppés de Paris, à Toulouse, ses parents habitaient Bourassol, et c'était une époque... On n'allait pas, il n'y avait pas de vacances, les gens ne partaient pas comme aujourd'hui, le tourisme ça n'existait pas, ça venait de démarrer à peine en 35-36 avec les congés payés, mais les gens, nous, moi il a fallu que j'attende d'être militaire pour découvrir la mer, on ne partait pas, alors ils s'emmerdaient à Bourassol là-bas, alors l'été moi je lui disais écoute viens à Compolivat. Mes parents étaient ravis de le recevoir, alors bonjour, nous sommes retrouvés. C'était l'époque entre juillet et août, quoi. Ils venaient pas pendant les 2 mois, mais ils venaient 15 jours, 3 semaines. Et il y avait des fêtes un peu dans tous les villages des environs. Et nous nous sommes retrouvés un jour. On y était allés d'ailleurs à pied, parce qu'il fallait y aller à pied. 4 kilomètres à pied. Un bataillon qui s'appelait Privezac. Et je me revois encore avec mon ami Akar. Nous nous sommes retrouvés au milieu d'une troupe de paysans que nous ne connaissions ni de A ni de B, eux non plus. Et nous nous sommes mis à chanter, tous ensemble. Et chacun, à son tour, montait sur la table. Alors ça, tu vois, c'est des choses indélébiles.
Certainement.
Bon, alors voilà. Alors donc, les chants, donc, là, moi je les ai appris donc, de mes grands-parents, de mes copains. Je ne sais pas d'où je les ai appris, mais pour te dire où on en était à ce sujet-là, d'ailleurs je l'ai marqué là, dans la cour de l'école, nous mettions en scène les contes, les vieux contes que nous racontaient nos grands-parents, et tout ça venait par tradition orale, mais ça prouve la fidélité de la tradition orale. Tous ces contes étaient transmis à un mot près. Nous les connaissions par cœur. Et tout le monde avait, disons, la même version. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on les mettait en scène. Dans la cour de l'école, nous les vivions. Il y avait l'ogre, il y avait le pougnetou, des histoires comme ça. Alors, on est en plein dans ce que le folklore a de meilleur. Pour la formation, l'éducation et tout. Ça, c'est Les gens qui ne voient maintenant que le folklore, que, disons épisodiquement dans des fêtes folkloriques, etc., ils n'imaginent pas ce que ça représente à la vérité dans la vie. Et moi, écoute, moi, je suis conscient que, je l'ai toujours dit, j'ai plus appris de ce milieu paysan-là, comme ça, que de tout ce que j'ai appris ensuite au lycée, ou de tous les bouquins de philosophie. C'est là que j'ai appris à vivre. Et je crois que, tu sais, c'est indiscutable. Et tiens, c'est là, l'année dernière, on a fait une expédition de notre académie chez mon ami Deschamps, là-bas, à Couiza. Ah ben, tu n'avais pas pu venir. Bon, j'ai retrouvé là un garçon qui fait partie de la section parisienne, entre guillemets, de l'académie. Je mets entre guillemets parce que j'estime que ces gens comme mon ami Aka qui sont à Paris, ce ne sont pas des Parisiens. Tu comprends ? Ce ne sont pas des Parisiens. Ils sont à Paris, mais c'est comme si tu me disais que le type, le noir qui vient de Nigeria à Toulouse, c'est un Toulousain. Il vit à Toulouse, mais il est Nigérien. Mm-hmm. Bon. Alors, dans cette section parisienne, il y a un ancien copain de Cagnes de Toulouse qui s'appelle Pagès, qui est devenu assistant à la Sorbonne de Camp Guillaume, c'est-à-dire des grands types de la philosophie actuelle. Et alors, il y avait 60 ans qu'on ne s'était pas vu. Alors bon, on s'est retrouvé avec plaisir. Alors ils m'ont parlé, alors là, lui, abondamment de tout ce qu'il a fait dans toutes ses études, etc. Il a fait des congrès internationaux, il a organisé des trucs. Enfin, tu sais, la psychologie sociale, bon, etc. Moi, là-dedans, pour moi, c'est du chinois. Et alors, mais à un moment, je lui dis, écoute, c'est formidable le parcours que tu as vu. Mais parce que je savais qu'il était né dans une ferme de Quercy. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est resté de ton enfance de paysanne dans le Quercy ? Estimes-tu que ça a beaucoup compté ? Beaucoup. Tu vois ? Malgré tout ce parcours extraordinaire de ce bonhomme, il estime que cette formation, je dis bien de base, a beaucoup compté. Alors revenons à nos chansons, si vous voulez. Vous voulez qu'on parle des chansons ? D'emblée.